Chapitre 6.
Vous êtes prêts ?
Demande Alban. Nous sommes dans le jardin de l'hôtel, Gwenole et moi. La jeune fille nous fait face et s'apprête à nous réciter l'extrait de la pièce de théâtre qu'elle a appris en vue de son audition. Apparemment, c'est l'intemporel Roméo et Juliette qui a été choisi par son professeur, et Alban ambitionne de décrocher le rôle de Juliette. Gwenole, très concentrée, prend visiblement son rôle de répétiteur à cœur. Il arbore pour l'occasion une superbe cravate orange parsemée de livres ouverts.
« Nous sommes prêts », confirme-t-il. « N'hésite pas à y mettre le ton et à prononcer les mots distinctement. Articule !»
Alban s'éloigne de quelques pas, elle ferme les yeux et prend une grande inspiration. Il émane d'elle une détermination peu commune pour son âge, qui n'est bien sûr pas sans me rappeler celle de Meryl.
« Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et abdique ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet !»
En mode tragédienne, elle plisse exagérément les sourcils et fait plusieurs pas d'un côté et puis de l'autre. L'ensemble est plus amusant que dramatique et je dois donner à mon voisin un discret coup de coude pour qu'il conserve lui aussi son sérieux. Alban reprend.
Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu ? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu'il possède. Roméo, renonce à ton nom, et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière !»
Cette dernière phrase, prononcée les bras écartés et le visage offert au ciel, clôt apparemment la prestation.
« Alors ? Alors ?»
demande-t-elle après avoir salué son auditoire. « Vous en pensez quoi ?»«
C'était très habité, »
commence Gwenole.
« C'est ce qu'il faut, non ? Juliette est une femme passionnée. »
Oui, mais là, elle donnait plutôt l'impression d'avoir envie de décapiter des gens, ajoutai-je.
Ah, peut-être un peu trop Game of Thrones alors.
S'agit-il d'un de ces groupes à la mode qui hurlent toute leur colère ?
L'interroge Gwenole.
Pas du tout, c'est une série où il y a des dragons et des tas de gens qui meurent transpercés par des épées ou écartelés. C'est trop génial, il faut que vous regardiez.
Je crois que je vais m'en tenir à Hercule Poirot.
Alban, qui n'a probablement encore jamais lu de roman d'Agatha Christie, me jette un regard circonspect. Pour en revenir à ce que je disais, dans ce vers, c'est plutôt le désespoir de Juliette que sa passion que l'on doit ressentir. Elle a compris qui était celui rencontré au bal et dont elle est tombée amoureuse. Elle sait déjà que les choses seront impossibles entre eux. C'est cette émotion qui doit transparaître dans cette tirade.
D'accord, message reçu. Moins guerrière, plus chouineuse.
Avant que j'aie le temps de répliquer quoi que ce soit, Alban s'est remise à sa place, ferme à nouveau les yeux et recommence.
« Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?»
Et ainsi de suite, avec acharnement, pendant près de 2 heures. Jusqu'à obtenir une version bien meilleure qui la satisfasse entièrement, elle, mais me donne à force, à moi, l'envie de défenestrer Juliette. Ou de lui envoyer les dragons de Game of Thrones. Gwenole, quant à lui, s'est assoupi depuis un petit moment. Lâcheur. Il est réveillé en sursaut par les aboiements d'Oxford, qui nous a rejoints et lui saute sur les genoux.
« Bravo, ma petite Alban. La dernière était vraiment parfaite. »
dit-il comme s'il ne venait pas de passer les 20 dernières minutes totalement endormi. Alban éclate de rire.
« Vous devriez vous aussi passer l'audition, » réplique-t-elle. « Vous jouez à la perfection celui qui a tout suivi. » Merci en tout cas, Roxane, de m'avoir aidée. Je vais tout déchirer vendredi.
De rien. Tu feras une Juliette parfaite. Tout sourire, l'adolescente prend Oxford dans ses bras et quitte le jardin non sans continuer à déclamer quelques phrases du monologue.
C'est beau, la jeunesse, ponctue Gwenole. On devrait pouvoir choisir d'avoir 12 ans à tout jamais.
Vous ne trouvez pas ? Il me semble que je suis déjà loin quand enfin je lui réponds. Arrêter le temps ne sert pas à grand-chose. Hormis figer une image et vous rendre malheureux pour le reste de votre vie. Il faudrait surtout pouvoir le remonter.
Peut-être un jour aurez-vous envie de m'expliquer ce qu'il vous est arrivé.
Répond Gwénolé, plein de cette sollicitude sincère qui pourtant finit par me déranger, tant elle me renvoie à ce que je cherche à oublier.
Ce jour-là, ajoute-t-il, vous pourrez compter sur une épaule pour pleurer.
Je lui souris. Il m'arrive de pleurer. En revanche, je suis encore incapable d'en parler à qui que ce soit. Même si le calendrier et les nombreux messages laissés par ma mère sur mon téléphone ne font que violemment me rappeler qu'il va pourtant bien le falloir. Lorsque 2 heures plus tard je suis de retour devant la porte de ma chambre, après un dîner passé une nouvelle fois en compagnie de Gwénolé, je retrouve Neige qui dort sagement dans son panier, les 4 pattes en l'air. Enfin, devrais-je dire qui dormait sagement dans son panier, car à peine ai-je approché la poignée que l'animal se redresse, sa petite queue frétillant de plaisir. Tu ne dormais pas vraiment, en fait. Question qui me vaut un aboiement en bonne et due forme pour réponse. Je me baisse pour caresser la petite chienne qui en profite pour me lécher la main. Tu sais comment faire pour m'amadouer, toi, hein? D'accord, je te laisse entrer et dormir avec moi 7 nuits, mais c'est la dernière fois, que ce soit bien clair. Second aboiement enthousiaste. Je crois que cette chienne me mène par le bout du nez. J'ouvre la porte et Neige se précipite à l'intérieur, saute sur le lit d'un bond et quasiment dans le même mouvement se roule en boule à côté de mon oreiller. Après m'être déshabillée et lavé les dents, je me glisse sous le drap et machinalement passe ma main sur le pelage chaud et doux de l'animal qui entre-temps s'est lové contre ma hanche. Je lui murmure à l'oreille. Elle voulait un chien. Elle m'en parlait souvent. Mais avec mes absences, c'était compliqué alors. Elle t'aurait adoré, tu sais. Ouais, elle t'aurait adoré.